Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi pour animer aujourd'hui, Cécile et Dominique. Bonjour. Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui, patrimoine figé sur des photographies ou patrimoine en évolution avec cette délicate question du développement durable. Le patrimoine à l'heure de la transition écologique, comment faire rimer ces deux réalités? Ça se discutera entre nos deux architectes du jour, Dominique et Gabriel Turquette de Beauregard. Et puis tout de suite, direction le Musée des Beaux-Arts d'Angers, une exposition qui met en lumière les grands photographes angevins. Quels sont leurs sujets de prédilection? Pourquoi les premières photographies des villes et des rues sont-elles sans personnages? François Comte, commissaire de l'exposition Angers, loin des clichés, répondra à toutes ces questions. Cécile, vous nous proposez une exposition sur la jeunesse de la photographie à Angers.
Oui, Bénédicte, aujourd'hui, la dimension artistique de la photographie n'est plus discutée. Mais à ses débuts, était-elle un art ou une technique, un témoignage historique ou un outil de reportage? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés voir l'exposition Angers, loin des clichés, c'est au Musée des Beaux-Arts d'Angers. François Comte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur en chef du patrimoine au Musée des Beaux-Arts d'Angers et commissaire de cette exposition qui présente les débuts de la photographie à Angers. Alors tout d'abord, une question plus générale, quand est-ce que la photographie commence et quand arrive-t-elle à Angers?
On connaît bien les inventeurs de la photographie, il s'agit de Nicéphore, Niépce et Louis Daguerre. La date qui est retenue officiellement, c'est 1839. Or, c'est précisément l'année où a été prise la toute première photographie à Angers.
Était à la pointe alors?
Oui, alors il s'agit encore de photographes itinérants, plus ou moins amateurs, il n'y a pas encore de professionnels. Et cette photographie qui a été prise depuis l'hôtel de ville, on le sait par un article de journal, n'a pas été conservée malheureusement. Mais en tout cas, nous avons déjà, dès les débuts de la photographie, témoignage d'une activité photographique.
À Angers. Alors justement, vous avez parlé de Louis Daguerre, et on connaît tous de nom sans savoir bien ce que c'est, parce que c'est un peu complexe, le daguerreotype. Et Bénédicte a dit en introduction, au début dans les photos, il n'y avait pas de personnage. Alors pourquoi? Je crois que c'est un peu lié à ce daguerreotype justement.
Oui, en effet. Enfin, ça remonte même à l'époque de Nicéphore Niépce qui faisait que des paysages. Alors s'il pouvait y avoir des personnes qui passaient, mais alors les temps de pause étaient tellement longs qu'on ne voyait même pas les personnes en fait.
Il fallait combien de temps de pause pour une photo au tout début?
Au tout début, c'est même plusieurs jours, à l'époque de Niépce.
Ah oui, il fallait être patient pour faire son portrait.
Oui, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de portrait. Alors ensuite, c'est de l'ordre de quelques heures, et puis les progrès sont assez rapides finalement. Et ça diminue. Et en effet, pour ne pas avoir des personnages flous au premier plan, on ne représente que des paysages. Le portrait arrive un peu plus tard. Et encore, il faut maintenir la personne dans des sortes d'instruments de torture, avec la tête qui ne doit pas bouger. Enfin, c'est assez terrible au début.
Ouais, c'est plus simple de poser pour un peintre dans ces cas-là. Quels sont les premiers noms de la photo à Angers et quel type de photo ont-ils fait?
Alors le premier grand professionnel, c'est Gaspard Berthaud, qui était installé place du Ralliement. Son activité a été prolongée par son fils, Fernand Berthaud. Donc pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, ce sont eux qui sont les principaux photographes à Angers. Mais entre 1850 et la Seconde Guerre mondiale, donc pendant un siècle, on compte à peu près 120 photographes à Angers, ce qui est quand même pas mal. Donc une activité importante à la fois de portraits, mais de commandes aussi, de bâtiments, donc, et également de la photo de reportage. Si on commence pratiquement vers 1855.
Et la photo à cette époque-là, on la considère comme une technique, un moyen de reproduction, ou est-ce qu'il y a déjà une dimension artistique ?
Oui, alors il y a une dimension artistique qui arrive assez tôt. Déjà, Louis Daguerre, c'est un peintre, hein. Ce qui n'était pas le cas de Niépce, mais on voit bien qu'il y a au tout début l'idée d'être assez proche, hein, de la peinture. Et puis on ne va pas hésiter non plus à retoucher les photos, à intervenir dessus. Donc on veut imiter en quelque sorte la peinture. Et c'est reconnu. Alors ça met du temps à être reconnu dans les salons, mais les premiers salons à Paris, ici, dans les années 1850, on a des photographies. Puis ça va s'arrêter, puis ça va reprendre après, hein, un peu plus tard. Donc la photographie comme art va mettre quand même quelques années avant d'être parfaitement reconnue, mais tout de même, elle s'installe assez vite dans le paysage artistique.
Oui, j'ai cru voir dans l'exposition qu'ils se définissaient tous comme peintres, photographes. Est-ce qu'ils avaient tous des formations artistiques ?
Alors, on a choisi ceux qui s'intitulaient peintres, photographes. Ça n'était pas le cas de tous les photographes.
D'accord.
Et en effet, alors non seulement ils avaient une formation artistique, mais ils ont commencé, ceux qu'on a choisis, par de la peinture. Alors, sauf les Berthaud, mais bon, ça c'est un autre cas, mais ils ont commencé par la peinture, et parfois ils sont même revenus à la peinture. Et dans les noms qu'on présente, que ce soit Louis Lebier, René Vétot ou Charles Seurault, leur activité photographique, c'est presque une parenthèse. C'est 10 années ou 15 années au maximum de leur vie.
Au milieu de leur vie artistique. Et justement, vous avez mis en regard de toutes ces photographies des tableaux. Pourquoi ?
Oui, alors ça c'est vraiment la première fois qu'on mettait en regard l'œuvre peinte ou gravée ou dessinée de ces peintres photographes et leurs photographies. Moi j'étais assez frappé que finalement les photographes eux-mêmes, on n'en parlait pas, c'est-à-dire qu'on montrait leurs œuvres, mais on ne savait pas qui c'était, et puis on oubliait qu'en dehors de la photographie, ils avaient fait autre chose. Donc c'est vraiment la première fois qu'on met en regard de face à face, finalement, leur dessin, leur peinture et leur photographie.
Il y a une chose amusante dans l'exposition aussi, c'est qu'on découvre que, par exemple, des journaux commandaient des photos et que ça servait ensuite à faire des dessins pour la presse.
Et oui, parce que la photographie met du temps à être reproduite telle qu'elle, hein. Il faut attendre la fin des années 1880, début des années 1890, pour qu'on puisse imprimer avec des nouvelles techniques les photographies. Alors, les grands journaux parisiens, style l'Illustration, Le Monde Illustré, pour des grands événements, alors, je pense aux inondations 1856, hein, de la Loire, mais c'était la même chose pour le Rhône. Eh bien, demande aux photographes qui sont sur place d'envoyer des photos, et c'est repris par des graveurs à Paris, en fait, hein, dans les journaux.
Et on découvre aussi, parce que vous dites au début, la photo commence par imiter la peinture, et puis au bout de quelques temps, on fait des tableaux et de la peinture à partir des photos, comme si en fait il y avait une interaction énorme entre les deux arts.
Oui, c'est une aide pour aussi le peintre, en effet. Alors, il y a même un peintre qui s'est spécialisé dans la copie de photos, qui est Louis Le Manceau. Il n'a pas connu tous les paysages d'avant la haussmannisation de la ville. Donc, il reprend des gravures, il prend des photos et puis il fait des tableaux. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'utilisation de la photographie pour la peinture.
Et pour nous aussi, toutes ces photos, c'est quand même un beau témoignage de l'évolution de cette ville d'Angers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans les photos, justement, sur l'évolution de la ville ?
Oui, alors, ils apprécient beaucoup les bords de Maine. Et en effet, les bords de Maine ont quand même pas mal changé. Alors, surtout la rive droite, d'ailleurs, parce qu'à l'époque où ils commencent les photos, il y avait déjà le Caligny, les grands immeubles, alors qui n'existent plus, puisque maintenant, nous avons...
Une belle voie express.
Voilà, exactement, une voie sur berge. Sur la rive droite, on pourrait dire, tiens, côté d'Outres, ça a moins changé. En fait, non, ça a beaucoup changé. Et les photographies qu'on montre, notamment du côté de l'hôpital Saint-Jean, là, maintenant, vous avez un boulevard, vous n'avez plus à la place de la place La Rochefoucauld, qui est une île, le comblement des canaux, et puis des bâtiments dans des espaces qui sont maintenant complètement dégagés.
En tout cas, c'est un beau sujet et traité de manière originale. On a juste été frustrés, c'est trop petit. Il faudrait faire beaucoup plus grand la prochaine fois sur un sujet comme ça. On a tous été frustrés. Il y a des conférences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors il y en a déjà une qui était mardi, là, hier, donc sur peinture et photographie par Anneno. La prochaine aura lieu au mois de janvier par Michel Raclin, intitulé « Angers à travers l'objectif des premiers peintres photographes ». Donc là, il s'agit de présenter vraiment l'évolution d'Angers, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis celle qui devait avoir lieu début décembre, finalement aura lieu le 1er février, et celle de Frédéric Nibard sur les premiers photographes angevins. Et là, on aura l'évolution de la technique de la photographie. Et on verra justement ces progrès. Et puis la dernière conférence, c'est moi qui l'ai fait sur les photographies de célébrités angevines. Il n'y aura pas forcément que des photographes angevins, parce que il y a beaucoup de ces angevins, je pense déjà à David d'Angers, qui a été l'un des premiers à se faire prendre en photo, mais à Paris,
le coquin. Bon, François Comte, merci beaucoup.
L'exposition Angers, loin des clichés, un siècle de photographie face à la peinture et aux arts graphiques, c'est au Musée des Beaux-Arts jusqu'au 10 mars. Tous les renseignements sur le site du musée. Et on écoute Benabar qui nous chante la photo.
Un bébé encadré sur une étagère. Un souvenir de vacances, un anniversaire. Une fille qui sourit coincée dans un sous-verre. Un cadre fantaisie, un bord de mer. Et personne ne bouge dans la tribu des yeux rouges. Tous différents, les mêmes photos pourtant. Les grands derrière, les petits devant. Quelques photos de couples exposées comme des preuves. Des photos de groupe, des amis qu'on punaise. On vérifie d'ailleurs l'air de rien chez les autres, qu'on fait partie des leurs, qu'à côté de leur tête y a la nôtre. Sur la cheminée du salon des grands-parents, le casting tout entier de tous les petits enfants. Les grands derrière, les petits devant, les petits devant. Les albums familiaux sont les manuels d'histoire qu'on regarde jamais, qu'on réserve au placard. Quand il était jeune, quand était...
Vous êtes toujours à l'écoute de Franche Culture sur les ondes de Radio Campus et notre émission continue avec notre architecte Dominique. Il y a aujourd'hui un sigle qui nous met tous en transe, le DPE, c'est-à-dire le diagnostic de performance énergétique. Que vous soyez propriétaire ou locataire de votre logement, ce DPE, à l'image du contrôle technique de votre voiture, vous rappelle vos devoirs civiques et écologiques. Alors racontez-nous tout ça, Dominique.
Oui, car il faut comprendre que la rénovation thermique du bâti est aujourd'hui organisée par des bureaux d'études. Ils mettent en application de gros logiciels de calcul sans jamais réellement porter attention aux particularités de chaque bâtiment. Alors la grande question que nous nous posons aujourd'hui, c'est comment concilier ces règles sans porter atteinte à notre patrimoine. Et je reçois pour en débattre Gabriel Turquette-Beauregard, bonjour. Vous êtes architecte des bâtiments de France, vous dirigez depuis 6 ans le service de l'architecture du patrimoine. C'est à Angers, l'antenne du ministère de la Culture. Et c'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez été un acteur important dans la création du secteur sauvegardé d'Angers. Et dans ce document d'urbanisme, vous avez voulu intégrer une réflexion approfondie pour que notre patrimoine ne soit pas à la remorque de cette transition écologique et vous avez proposé des solutions qui sont adaptées aux bâtiments anciens et qui sont forcément donc très différentes des immeubles neufs. Ma première question, c'est: le patrimoine est-il un exemple ou une caricature sur le thème de cette transition écologique ?
Bonjour Dominique. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est central, qui est très important aujourd'hui. On a des objectifs, tant en tant que responsabilité individuelle que des objectifs qui nous sont confiés par le gouvernement sur la rénovation des bâtis anciens, qui est un pôle très polluant. Et pour autant, la question est compliquée. Elle est très compliquée parce qu'effectivement, on a des formules qui sont déroulées, définies, notamment par ce fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE, et qui ne différencie aujourd'hui pas ou trop peu le bâti ancien et le bâti contemporain.
Alors, quelle date on retient pour faire la classification entre bâti ancien et bâti contemporain ? Alors,
on a tendance à s'arrêter à la date de 1948. Ce sont les modes de fonctionnement, de construction qui sont différents. Avant 1948, on est sur des architectures en pierre, en terre, en bois, avec des mises en œuvre traditionnelles, souvent des architectures épaisses, en matériaux lourds, avec beaucoup d'inertie.
Donc ça veut dire des matériaux régionaux ?
Et des filières courtes, oui, bio ou géosourcées, on dit aujourd'hui, avant on disait traditionnel. Et puis après 1948, où on a commencé à industrialiser les modes constructifs, où on est sur des architectures qui sont plutôt en béton, qui sont en parpaing, en briques, et qui elles sont des architectures avec moins d'inertie et qui sont étanches, contrairement à l'architecture ancienne. Et du coup qui ont besoin d'avoir une ventilation mécanique. Et ça fait une différence énorme sur son rapport à la chaleur et son rapport à l'isolation.
Alors, quels sont les plus gros défauts qui montrent du bois ce bâti ancien de notre patrimoine vis-à-vis de cette nouvelle réglementation sur les diagnostics ?
Aujourd'hui, les diagnostiqueurs ont tendance à dire que les bâtis anciens, avant 1948, sont des passoires thermiques parce qu'il y a une mauvaise évaluation de leur performance, où on calcule sans différenciation de confort d'été ou de confort d'hiver le bâti ancien, en fonction de ce qu'on sait faire rentrer dans la machine, dans les logiciels. Et aujourd'hui, les diagnostiqueurs ne savent pas trop ce qu'il y a derrière les murs, dans l'épaisseur du mur, et du coup on est sur des modes de calcul par défaut qui sont très défavorables aux bâtis anciens.
Alors en général, pour les bâtiments neufs, on considère que la meilleure solution, c'est d'appliquer une isolation thermique par l'extérieur. C'est totalement, j'imagine, imaginable à vos yeux en ce qui concerne le bâti ancien et cette préservation, cette mise en valeur de notre patrimoine. Si la Maison Bleue était recouverte d'une isolation par l'extérieur, il n'y aurait plus de Maison Bleue, on est d'accord.
Oui, c'est un problème à plusieurs niveaux. C'est un problème dans un premier temps structurel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on casse la respiration de ces maçonneries traditionnelles qui ont besoin de respirer, qui ont de l'eau dedans, on va avoir un problème de pourriture de ces matériaux, c'est-à-dire des mortiers en terre ou à la chaux, mais aussi des pierres tendres comme le schiste ou le tuffeau qui composent notre patrimoine du Maine-et-Loire, des bords de Loire, alors que le bâti en béton, lui, n'a pas de problème de respiration. Et on a tendance à appliquer la même formule sur l'ancien que sur le nouveau, qui pose un problème instructurel. Le deux, c'est effectivement le cadre de vie. Aujourd'hui, on est en train de masquer par une architecture un peu systématique de Marseille à Dunkerque sur ce fameux bardage bois, plastique, gris ou blanc, alors même que notre patrimoine français est extrêmement varié, notamment dû à cette géologie extrêmement variée. En France, on ne peut pas faire 20 km sans changer de géologie, donc de façade, d'enduit, de pierre.
Alors, il y a une grande loi concernant les diagnostics de performance énergétique, c'est la loi du 22 août 2021. Est-ce qu'il y a dans cette loi quelques exceptions qui permettraient au patrimoine de survivre ou d'être présenté dans de bonnes conditions ?
Alors effectivement, la loi Climat Résilience qui encadre et qui donne comme objectif la rénovation de 500 000 logements par an, dont on considère qu'il y a à peu près un tiers de bâtis anciens, donc ce n'est pas une niche, demande à avoir une bonne performance thermique identifiée essentiellement par ce fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE. Mais elle prévoit aussi un certain nombre d'exceptions, notamment le décret du 8 avril 2022 qui dit que pour le bâti ancien en espace protégé, comme par exemple le PSMV d'Angers ou les abords de monuments historiques, ou sur des bâtis identifiés comme étant patrimonial, on pouvait avoir une exception par rapport aux performances, notamment pour pouvoir, si la rénovation thermique remet en question la stabilité et la structure du bâti ancien.
Alors, cette loi est sortie très rapidement, je crois, à l'époque. Elle n'a pas été rodée, on n'a pas eu le temps. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des aménagements à venir, toujours concernant ce patrimoine? Parce que dans un secteur sauvegardé, comme vous le dites, difficile d'imaginer que les gros calculateurs des bureaux d'études puissent faire leur travail.
Alors, je pense que là, on porte tous cette responsabilité. En tant que porteur, en tant que privé, en tant que public, en tant qu'architecte, en tant que maître d'œuvre, etc., il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On a été entendu, les associations au Sénat cet été, on a eu différents échanges et tout le monde est conscient qu'il faut faire évoluer les choses. Des ateliers sont en cours au ministère de l'Environnement et au ministère de la Culture. Mais il y a aussi une évolution qu'il faut qu'on fasse tous, chacun d'entre nous, pour essayer de comprendre, pour faire une rénovation aujourd'hui adaptée et prudente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous énumérer les principales qualités de ce bâti ancien? Vous nous en avez un peu parlé, mais la pierre, comment est-ce qu'on doit considérer la pierre? Comment est-ce qu'on doit considérer les vitrages de ces bâtiments?
En fait, effectivement, c'est ça la clé. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre comment fonctionne la thermique dans le bâti, qu'il soit ancien ou moderne, pour pouvoir agir dessus. On considère qu'il y a 4 critères principaux de confort. Le premier, c'est la température, bien évidemment. Le deuxième, c'est l'hygrométrie, savoir si l'air est humide ou sec. 18 degrés sur un air humide n'est pas supportable, alors que 18 degrés sur un air sec est très supportable. Le troisième, c'est le rayonnement des matériaux. Si on est sur une pièce à hygrométrie constante, à température constante, qui est en granit, mur, plafond, sol, ou qui est en bois, on n'a pas du tout le même ressenti, parce que le rayonnement du matériau est différent. Et pourtant, c'est la même température et la même hygrométrie. Donc le rayonnement est très important. Et le quatrième, c'est les courants d'air, les mouvements d'air. Si on a une bonne isolation, des bonnes performances, mais qu'on a un petit courant d'air, l'hiver en tout cas, l'été c'est très agréable, mais l'hiver, on a un ressenti qui est mauvais. Et chacun de ces ressentis nous font agir sur notre chauffage en l'augmentant ou en le baissant. Donc il est important de comprendre ces fonctionnements pour pouvoir agir avec justesse sur cette performance thermique et avoir quelque chose d'adapté.
Alors ventilation et chauffage, nous avons bien compris. Je crois que vous avez aussi des réponses concernant les plafonds et les planchers, notamment les planchers sur les sols en terre battue. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'isolation sous leur carrelage. Comment est-ce qu'on peut régler intelligemment ces problèmes vis-à-vis du DPE ?
Alors, il faut différencier effectivement la recherche de confort thermique et d'avoir une bonne notation du DPE. La notation du DPE pour remplir les objectifs, je rappelle très très rapidement pour le propriétaire bailleur, c'est de ne pas être en passoire thermique à partir depuis août 2022. Et à partir du moment où on est en F ou en G, les propriétaires bailleurs ne peuvent plus augmenter leur loyer. Et à partir du 1er janvier 2025, ils ne pourront plus louer tout court. Donc il faut qu'ils sortent de cette classification F ou G. Il y a bien sûr des aménagements à faire, mais il faut aussi avoir un diagnostiqueur qui soit bien accompagné pour comprendre ce qu'il y a dans les épaisseurs de plancher. Souvent, ils considèrent qu'entre le plafond et le plancher, il n'y a rien, alors que la plupart du temps, on a des chapes en terre qui sont très bien isolées, etc. Donc il faut l'expliquer déjà au diagnostiqueur, comprendre aussi ce qu'il y a dans un mur. Pour vous donner une petite illustration, pour avoir la performance de 15 cm de laine de verre en pierre, selon ce DPE, il faudrait des murs de 6 mètres d'épaisseur.
Ouais,
on voit bien instinctivement, sans faire de calcul, qu'il y a un problème de calcul. Et pour ça, il faut accompagner en connaissance de ces modes constructifs pour avoir une meilleure note sans même forcément faire de gros travaux.
Alors, vous faites aussi, je crois, une assez grande différence entre les façades principales sur rue, qui sont en général des façades ornementées, et puis les façades sur cour, qui sont généralement plus pauvres en architecture et sur lesquels on peut avoir une marge de manœuvre un peu plus grande.
Alors dans le PSMV d'Angers, justement, dans l'outil de gestion, on a essayé d'intervenir là-dessus sur ces deux côtés, effectivement. Un sur l'impact sur les décors intérieurs ou extérieurs, mais aussi sur la conservation des modes constructifs. C'est-à-dire que si on isole mal un mur, on peut mettre en péril une pierre de tuffeau ou autre. Donc il faut déjà comprendre la nécessité, est-ce que c'est nécessaire d'isoler le mur déjà, commencer par se poser cette question. Et pour ça, il faut travailler sur la composition du mur, son épaisseur, son ressenti, et pas forcément s'attacher uniquement au DPE. Et deuxièmement, si ce mur n'est pas assez isolé, avoir une intervention le plus juste possible pour ne pas mettre en péril ces structures et ne pas masquer les premiers signes de faiblesse qui sont les fissures, sans quoi on a un risque de péril dissimulé, donc très soudain. Donc il y a un vrai danger de cette intervention qui doit se faire avec justesse.
Bon. Il y a un très gros sujet aussi, c'est la fenêtre, la porte-fenêtre. Dans tous ces immeubles anciens, on a des vitrages de très très faible épaisseur, jusqu'à 2 mm, en parlant pour les plus petites épaisseurs. Il est évident que ça, c'est pas du tout conforme aux souhaits du diagnostiqueur. Pourtant, ces fenêtres sont généralement toutes en bois. Comment est-ce qu'on peut concilier isolation et maintien de ce dessin particulier qui est à chaque fois adapté à l'architecture de l'immeuble ?
Alors, il y a plusieurs... La menuiserie est un sujet important. Elle est importante pour le patrimoine, elle est importante pour le confort. Et pour ça, il faut avoir, pareil, une approche fine. C'est-à-dire que selon les architectures, selon le rapport plein-vide, etc., selon l'état de la menuiserie, il faut identifier quelle est cette déperdition. Est-ce que c'est parce que cette menuiserie est ancienne qu'on considère qu'il y a des déperditifs, ce qui n'est pas toujours le cas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a des courants d'air qui partent de tous les côtés. Donc si cette menuiserie n'a pas d'intérêt patrimonial, effectivement le changement reste vraiment ce qu'il y a mieux à faire. Pour autant, changer en bois, le bois reste le matériau le mieux isolant, plus pérenne.
Et imposé dans le règlement de secteur sauvegardé.
Et imposé pour les bâtis construits avant 1948, effectivement.
D'accord.
Mais de temps en temps, on peut aussi passer sur des réparations, et ce n'est pas une aberration que de réparer une menuiserie ancienne, surtout si elle a une valeur. Il faut garder en tête qu'une menuiserie construite avant le début du 19e siècle, c'est une menuiserie qui n'a pas été industrialisée, qui n'est pas rentrée dans un mode industriel. Donc chaque menuiserie unique est l'œuvre d'un artisan qui travaille différemment de l'atelier d'après. Donc on est sur des œuvres uniques, on parle bien d'artisans et non d'ouvriers. Donc c'est aussi un patrimoine qu'il faut savoir préserver quand il a de la valeur.
Donc vous proposez des compléments techniques sur des menuiseries anciennes pour les adapter à cette nouvelle réglementation.
Et sur lequel on a des choses assez intéressantes. Effectivement, la première, c'est effectivement qu'il y ait des courants d'air, casser les courants d'air. Le deuxième, c'est on peut aussi passer sur une double fenêtre, par exemple, mais on peut aussi arriver sur des verres plus performants. Aujourd'hui, on est capable de faire des doubles vitrages sur des verres de 7,5 mm qui ont des performances de triple vitrage. Donc on est sur des verres très haute performance aujourd'hui que l'on peut adapter sur certaines, pas sur toutes, mais sur certaines menuiseries anciennes. Et puis parfois, juste mettre un verre épais, ça peut être une solution. Donc selon le cas, selon la valeur, il y a plusieurs choses à faire, sachant que cette réparation de menuiserie reste de toute façon moins chère qu'une menuiserie neuve.
Ça, c'est du travail d'ébénisterie, c'est plus du travail de menuiserie d'ailleurs.
Ça dépend de l'ébéniste, ça dépend du menuisier.
Alors, il y a aussi des sujets importants autour de ces règlements, c'est le panneau solaire. Comment est-ce qu'on installe un panneau solaire dans un immeuble, dans un secteur sauvegardé ? Est-ce que c'est autorisé ? Est-ce qu'il y a des exceptions ? Comment peut-on répondre à la demande ?
Alors, moi, j'aime pas trop le mot exception, mais pour autant, il y a des cadres dans lesquels on peut faire des choses. C'est-à-dire que le panneau solaire, c'est une des solutions du développement durable, mais c'est pas la seule solution. On a autorisé, dans certains cas de figure, de mettre du panneau solaire, mais sous un certain nombre de réserves. Parce que, notamment à Angers, le toit en ardoise est un patrimoine plus fort encore qu'ailleurs, puisqu'on est sur la capitale de l'ardoise. Mais on peut mettre, on a ouvert la possibilité de mettre du solaire sur certains toits plats qui ne sont pas visibles depuis l'espace public, certains éléments en creux, certains bâtiments non patrimonieux et qui ne viennent pas porter atteinte à la cohérence d'ensemble. Ça reste une petite marge, mais elle est quand même existante.
D'accord, donc ça s'étudie au cas par cas. Est-ce qu'on vous est sollicité aussi beaucoup pour des installations de pompes à chaleur, par exemple ? Parce que c'est du matériel qui occupe du volume à l'extérieur. Je ne parle pas du bruit, mais je veux dire, visuellement, ça a un impact certain.
Oui, et puis la pompe à chaleur, effectivement, est aujourd'hui l'une des premières prescriptions des diagnostiqueurs. Systématiquement, la pompe à chaleur est proposée dans un système de chauffage, qu'il soit en individuel ou en collectif. Donc on a effectivement un certain nombre de demandes, quand elles sont à l'extérieur, quand elles sont à l'intérieur, en dehors des espaces protégés, bien sûr on n'est pas sollicité, et puis tant mieux.
Mais on est tous inondés de publicités, au téléphone, à la radio, à la télévision également, à la fois pour ces panneaux solaires, à la fois pour ces pompes à chaleur, donc j'imagine que beaucoup de gens doivent vous poser la question.
Il faut là-dessus... ne pas confondre rapidité et précipitation. Et il faut arriver avec un maximum de justesse et de sagesse, parce qu'il y a dans toutes ces sollicitations ce qu'on appelle les éco-délinquants, et qui peuvent mettre en difficulté les propriétaires. Déjà parce que les mises en œuvre sont de mauvaise qualité, qui vont développer des problèmes, et que par ailleurs, il y a un risque incendie important. Je vous rappelle, le premier risque incendie, c'est l'électricité. Quand c'est mal fait, il y a des risques incendie. Donc il faut être prudent, là-dessus et pas se précipiter.
Ben, souhaitons tous que cette loi du 22 août 2021 évolue, notamment pour assurer la parfaite mise en valeur de notre patrimoine. Gabriel Turquette-Beauregard, merci beaucoup pour votre intervention et tous les conseils que vous nous prodiguez.
Merci à vous.
Merci Dominique. C'est la fin donc de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Julie pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.